des souris et des lettres.
Dans sa rubrique, Jean-Luc nous a décrit un Michel Serres voulant oublier ses réflexes et présupposés d'adulte pour mieux s'imprégner des modes de pensée du nouveau public des enfants et adolescents qui nous sont confiés. Philippe Godivot, lui, en s'interrogeant sur les mécanismes intellectuels qui rapprochent le développement cognitif et la pratique ludique, sans vouloir prendre le problème différemment. Paradoxalement, bien utilisé par le professeur, le jeu pourrait, selon lui, devenir un puissant instrument pédagogique. C'est ce qu'il va tenter de nous démontrer dans la rubrique « Ils n'apprennent plus comme avant ». Mais tout d'abord, Philippe, j'ai parlé de paradoxe.
Effectivement, Serge, parler des serious games pourrait sembler, aux yeux de certains de nos auditeurs, comme la volonté d'ergoter sur un paradoxe. Allons-y, d'analyser un oxymore. Jouer en classe, enfin, ce n'est pas sérieux. Et pourtant, la démarche est on ne peut plus sérieuse, et je vais essayer de vous montrer que c'est à plus d'un titre. Tout d'abord, le serious game représente une autre manière d'aborder la tâche scolaire. Bien loin du simple exercice d'automatisation des procédures. En effet, il propose à chaque élève de s'adapter à un panel de situations problèmes, mobilisant ainsi les connaissances et les compétences nécessaires. Le serious game nous pousse donc à travailler à partir de ce que Philippe Pernoud appelle une tâche complexe. L'élève doit s'adapter aux situations proposées, programmer son activité, réfléchir à un déroulement, envisager plusieurs manières de répondre, prendre une décision. Tout cela, nous le voyons, fait du serious game un support de choix pour développer des compétences, fixer également des connaissances et favoriser ce dont parlait Adeline, l'autonomie. Mais si cette dernière est rendue possible, c'est aussi parce que le serious game, par son côté ludique, est un outil qui autorise l'erreur et qui en même temps la dédramatise. Vous avez perdu la partie, selon l'expression consacrée, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de comprendre où l'erreur a été commise, puis de recommencer en classe ou chez soi pour voir si l'explication, la remédiation, a porté ses fruits.
Donc Philippe, le jeu sérieux a bien sa place dans nos classes, mais on peut légitimement se demander si quelles activités cognitives sont renforcées au moyen de cet outil.
Alors je vais me tourner vers la recherche qui a très récemment prouvé que tout d'abord l'exploration de l'écran lors de l'utilisation du jeu débouchait sur un accroissement de l'attention quant aux informations présentées. Celles-ci sont mieux traitées par notre cerveau, mais aussi mieux mémorisées. En outre, la quête de l'information dans un espace défini, celui de l'écran, améliore le repérage dans l'espace et la réactivité des élèves. Nos auditeurs feront aisément le lien avec les compétences de repérage spatial à l'œuvre dans la lecture et dans la prise d'information. Par ailleurs, le jeu repose largement sur les émotions. Le plaisir, la frustration, le sentiment d'auto-efficacité et tant d'autres. Or, dès les années 80, la recherche a démontré que ces sentiments favorisaient ce que les sciences cognitives appellent les apprentissages profonds. Ce sont par exemple la compréhension de la causalité, la génération d'explications, l'argumentation.
Mais Philippe, tout à l'heure, tu as dit que le jeu sérieux, c'était un moyen de mieux mémoriser. Tu peux expliquer un peu davantage ça ?
Tout d'abord parce qu'à l'occasion du jeu, l'élève développe sa capacité à traiter un grand nombre d'informations en même temps. Stanislas Dehaene parle ici de la mobilisation concomitante de plusieurs fonctions qui habituellement sont utilisées de manière indépendante. En outre, le serious game a recours à la mémoire épisodique, associant une connaissance à un vécu particulier. Rappelons-nous de Proust. Or, nous savons que cette mémoire est souvent sous-exploitée dans le cadre du cours traditionnel. Enfin, je ferai référence au psychologue américain Howard Gardner et à sa typologie qui comporte pas moins de 8 formes d'intelligence spécifique. Vous trouverez en lien, chers auditeurs, dans notre document annexe, toutes ces références. En confrontant le serious game à cette typologie, on s'aperçoit que ce dernier va faire passer l'apprentissage par de nouveaux canaux, sollicitant des formes d'intelligence qui sont peu, ou j'ose dire même pas, sollicitées en classe. Pour synthétiser mon propos, je dirais que le serious game représente une manière complémentaire d'envisager la tâche scolaire, qu'il implique un renforcement d'activités cognitives de premier ordre et qu'il sollicite l'élève à travers toutes les formes d'intelligence à sa disposition. Et pour conclure réellement, je laisserai la parole à Confucius qui disait « Dis-moi et j'oublierai. Montre-moi et je pourrai m'en souvenir. Fais-moi participer et je comprendrai. » C'est bien là tout l'esprit du Serious Game.
Rassurez-vous, chers auditeurs, il arrive parfois que Philippe redescende des sphères de la pensée confucéenne. C'est ce qu'il va nous prouver dans la rubrique suivante, en compagnie de Clément Bigot, qui lui donne la réplique. Nos deux collègues vont passer de la théorie du jeu à la pratique, en vous montrant comment certains jeux sérieux en ligne peuvent favoriser l'imaginaire de l'écriture et donc renforcer notre enseignement de professeurs de français. C'est bien sûr dans la rubrique « Ils témoignent » qu'ils vont nous montrer tout cela. Je vais d'abord donner la parole à Clément. Clément, en quoi le jeu sérieux est-il un levier d'écriture ?
Alors, pour pouvoir te répondre, Serge, je crois qu'il faut partir d'une évidence. Il ne peut pas y avoir de jeu sans contrainte. Qu'on songe au sport, aux jeux de société et par là même aux jeux vidéo ou aussi aux serious games. Il ne peut pas y avoir de jeu sans contraintes, sans règles. Mais on peut aussi étendre sa réflexion et penser qu'il ne peut pas y avoir d'écriture sans règles. Tout écrivain est obligé de se fixer certaines limites, certains cadres pour pouvoir déclencher son écriture. On peut prendre appui sur le groupe littéraire de l'Oulipo, qui associe parfaitement, il me semble, à la fois contrainte et jeu. Donc le Serious Game, dans la mesure où il propose des environnements déterminés, avec des noms de personnages, des trames narratives, des caractères, des lieux, peut servir de déclenchement à l'écriture. Et puis, par ailleurs, le Serious Game permet d'établir des liens forts entre les images, qu'elles soient fixes ou mobiles, et des mots, ou entre des sons et des mots. Et par là même, là encore, le Serious Game peut constituer un levier d'écriture intéressant. On peut aller jeter un œil du côté de Typewriter, où l'ambiance musicale fait notamment partie du charme et de l'intérêt du jeu, et donc peut constituer... une sorte de levier pour pouvoir écrire. Maintenant, il faut aussi penser à aménager des conditions particulières pour pouvoir favoriser l'écriture au moyen d'un serious game.
Oui, moi j'aimerais proposer aussi une redéfinition, plutôt une clarification. On parle beaucoup de serious game et je vois fleurir de ci, de là sur le web beaucoup de scénarios qui disent utiliser le serious game. Mais il faut rappeler tout de même qu'un serious game doit proposer une scénarisation des contenus. Et donc, de ce fait, proposer aussi une approche à travers des règles, bien sûr, mais aussi à travers la narration. Je pense ici, par exemple, à la collection « J'ai vécu au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle », un petit peu ancienne, vous les trouverez dans tous vos bons CRDP et CDDP, qui mettait cette scénarisation au service, notamment de l'écriture. Et cette référence me permet de rappeler que le serious game doit en quelque sorte se rapprocher de l'œuvre cinématographique, de l'œuvre littéraire, parce qu'il constitue une forme d'acculturation, mais aussi il doit pouvoir constituer chez l'élève des modèles de narration.
Alors dans ce cadre donné, il faut quand même laisser une place à l'imaginaire, Philippe.
Ah, il faut laisser même, j'irais, pratiquement toute la place à l'imaginaire. Au moins chez les plus jeunes. Nous savons, la recherche l'a prouvé, que c'est un puissant levier dès le plus jeune âge. Par ailleurs, le serious game fera alors écho aux lectures, aux films. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une entrée dans le monde de la culture. Ainsi, pour l'enseignant, il y aura la possibilité de comparer différents modes de narration. Je tiens à cette idée de culture parce que l'utilisation du serious game en classe permettra, ce me semble, de tisser aussi un lien très fort entre la culture personnelle de l'enfant et la culture scolaire, ce qui manque parfois dans nos classes. C'est une manière également de travailler sur certaines notions. Je pense par exemple au serious game qui s'appelle Secret Cam, où vous avez la chance de rentrer dans un point de vue interne à travers le monde à la fois de l'entreprise et la lourde problématique de l'insertion des personnes handicapées. Grâce à ce Serious Game, on peut travailler sur la notion de point de vue, mais d'une toute autre manière que la manière traditionnelle. Et puis, écrire à partir du Serious Game, c'est aussi conserver la trace d'un moment de plaisir, prolonger une évocation. Néanmoins, il ne faut pas croire que le Serious Game soit une panacée pédagogique. Et il faut se poser aussi la question de savoir si l'hétérogénéité des classes est un atout ou au contraire un obstacle radical à la pratique de ce Serious Game.
Oui, alors pour ma part, je pense que le Serious Game peut vraiment permettre de mieux gérer l'hétérogénéité scolaire d'une classe. Il ne faut pas oublier que le Serious Game tranche radicalement avec les activités d'écriture dites traditionnelles. Parce que le Serious Game utilise des émotions assez fortes et ça fait partie de son aspect ludique. Or, ce sont ces émotions qui sont capables de raccrocher les élèves les plus ascolaires à des notions et des compétences attendues par les programmes officiels. On peut prendre appui sur le Serious Game appelé « Envers et contre tout ». Où le joueur se voit enfermé dès le début du jeu, en fait, dans un commissariat d'un pays totalitariste, et donc se voit questionné par un inspecteur de police. Donc je vous passe les détails un petit peu violents, mais néanmoins adaptés à un public scolaire. Mais toujours est-il que l'émotion est là pour raccrocher, pour intéresser les élèves aux enseignements un peu plus classiques. D'autre part, le Serious Game aide à la concentration en matière de respect des consignes, du fait, là encore, de son caractère ludique. Et c'est justement ce manque de concentration qu'on reproche habituellement aux classes les plus faibles, les plus difficiles à gérer. Enfin, je pense que le Serious Game permet à l'élève d'aller à son rythme dans l'avancée de son jeu. En fonction de ses réponses, il peut passer d'un niveau à l'autre et cela favorise l'autonomie qui sera par la suite profitable aux élèves vis-à-vis des autres types d'exercices.
Alors Clément vient de décrire une série de qualités attachées au jeu sérieux, mais Philippe, la question que je te pose, c'est que ce jeu sérieux serait-il une tâche complexe ?
Alors avant de te répondre, déjà redéfinissons la tâche complexe. Je rappelle que la tâche complexe, ce n'est pas une tâche qui serait compliquée, qui serait difficile, mais c'est une tâche qui est déconnectée, en apparence pour le moins, du cours en tant que simple application et qui demande une mobilisation de savoir, de compétences, témoignant d'une maîtrise réelle à l'issue d'un apprentissage. Et pour te répondre, Serge, oui. Le Serious Game répond bien à cette définition de la tâche complexe. Je prendrai comme exemple, je vais faire une petite entorse à la propre règle que j'ai définie, à Dialogus. Dialogus, nous en avons déjà parlé à ce micro. Dialogus n'est pas proprement parlé un Serious Game, c'est plutôt ce qu'on appelle une simulation. Néanmoins, lorsque je veux écrire sur ce site pour, je vous le rappelle, échanger avec un personnage mort, eh bien... L'élève doit mobiliser des connaissances, doit mobiliser des compétences et aussi doit faire des choix. Tout cela répond bien à la notion de tâche complexe et répond bien à ce que tout enseignant cherche chez un élève, c'est à développer son autonomie. Néanmoins, ce n'est pas une panacée pédagogique et il y a quand même des limites à l'utilisation dont il faut avoir conscience pour faire des choses véritablement de qualité.
Oui, effectivement. Alors là, je vais en revenir à des détails un peu plus, qui pourront sembler un peu plus triviaux, en tout cas qui sont plus concrets. Il ne faut pas oublier que l'environnement est très important pour pouvoir pratiquer des serious games avec nos élèves. Dans la mesure où, dans l'idéal, il faut au moins un poste informatique par élève. Au-delà de deux élèves par poste, cela peut sembler impraticable. Et puis, surtout, il me semble, et je m'appuie sur ce que disait Serge dans l'introduction de l'émission, il me semble que pour les enseignants, mais aussi du coup pour les élèves, jouer, c'est différent de travailler. Ce sont deux notions qui sont opposées. Or, cela peut créer d'éventuels problèmes en matière de gestion de classe. Du coup, il est nécessaire pour nous, professeurs, de bien expliciter nos attentes. Il faut faire un véritable travail en amont qui porte sur les consignes d'écriture pour bien indiquer qu'il s'agit là véritablement d'un jeu sérieux.